Et Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Or Jonathan, fils de Saül, était très affectionné à David. Et Jonathan en informa David, disant « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Et maintenant, je te prie, sois sur tes gardes au matin et demeure dans quelque lieu secret et cache-toi. Et moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans la campagne où tu seras. Et je parlerai de toi à mon père et je verrai ce qu'il en est et te le ferai savoir. » Et Jonathan parla en bien de David à Saül, son père, et lui dit « Que le roi ne pèche point contre son serviteur, contre David, car il n'a point péché contre toi. Et même ce qu'il a fait est très avantageux pour toi. Car il a mis sa vie en sa main et a frappé le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi donc pécherais-tu contre le sang innocent, en faisant mourir David sans cause ?» Et Saül écouta la voix de Jonathan, et Saül jura « L'Éternel est vivant si on le fait mourir. » Et Jonathan appela David, et Jonathan lui rapporta toutes ces choses. Et Jonathan amena David à Saül, et il fut devant lui comme auparavant. Donc ces deux passages sont considérés pour l'étude maintenant.
On a donc sauté plusieurs chapitres, puisque l'objet de cette étude était de rester centré sur la personne de Jonathan. Et dans certains les chapitres qu'on a sautés, c'est essentiellement l'action de Saül qui était mise en avant, plus que celle de Jonathan. Et donc c'est pour cela qu'on est passé à la scène suivante de ce début du chapitre 18, où à nouveau Jonathan est en scène. Et je redonne ce pour que les enfants toujours comprennent dans quelles circonstances on est, parce qu'on a commencé à lire le chapitre 18, on comprend qu'il s'est passé quelque chose avant, mais c'est important de savoir quel est le récit juste avant pour bien comprendre ce récit. Dans le chapitre 17, juste avant, c'est peut-être un des enfants que vous, les enfants, vous connaissez le mieux, dans l'Ancien Testament, en tout cas un de ceux, c'est le récit de la victoire de David sur le géant Goliath. Goliath, qui était un de ces Philistins, qui faisait, semble-t-il, presque 3 mètres de haut, un géant, un colosse qui terrorisait le peuple. Et David, eh bien, ce jeune berger, avec cette confiance en Dieu, cette foi que Dieu lui a donnée, et a vaincu le Goliath avec sa fronde. Tout le monde connaît cette histoire. Le Goliath a été tué. David a coupé sa tête. Il a remporté la victoire. Et les Philistins sont enfuis. Et le peuple d'Israël a eu la victoire grâce à David. Et cette scène se passe juste après. On fait venir David devant Saül, devant Jonathan, certainement tous les chefs du peuple sont là, tout le peuple est là. Et cette scène du chapitre 18, c'est ce moment où Jonathan est là. Il faut bien se rappeler qui était Jonathan. Jonathan est le prince héritier et c'est lui-même un héros de guerre, c'est lui-même un grand guerrier, quelqu'un que le peuple admirait. Vous rendez-vous compte de cette position, fils du roi, futur roi lui-même, grand guerrier, sauveur du peuple dans les circonstances qu'on a rappelées avant, et voilà quelqu'un qui arrive et tout le monde se met à admirer. Il y a là tous les ingrédients pour que ça se passe mal entre Jonathan et David, pour que Jonathan soit terriblement jaloux. C'était lui le héros, c'était lui le voilà. Il y avait tout pour qu'il soit jaloux de David. Et c'est exactement le contraire qui se passe, exactement le contraire. Et on va parler sans doute des... Très certainement, parce que bien sûr que c'est un élément très important de cette image de David. Là, on a dit que Jonathan était une image du Seigneur Jésus dans les passages qu'on a vus. Et là, on sent qu'avec l'arrivée de David, eh bien, l'image glisse et c'est David qui va nous parler, hein, celui qui a remporté la victoire sur l'ennemi, celui qui a délivré, celui qui a sauvé le peuple. C'est lui qui va être cette image tellement belle du Seigneur Jésus. Et Jonathan va être une image de celui qui va s'attacher à lui. Et on va certainement parler de ça. Mais il me semble qu'il y a aussi une leçon, quelque chose de très beau qui peut nous parler à tous, c'est de cette amitié très forte entre deux croyants qui vont se lier l'un à l'autre. Et sans qu'il y ait la moindre jalousie, sans qu'il y ait la moindre compétition entre eux, sans qu'il y ait toutes ces choses-là sont gommées, ce sont des sentiments, on pourrait dire, très, très purs que la parole nous montre. de deux croyants qui vont être comme liés l'un à l'autre, avec une affection très profonde, très grande, et la parole insiste. Et il me semble qu'il y a, un encouragement vraiment pour nous tous, et puis pour peut-être encore plus pour les plus jeunes, de se dire que Dieu désire qu'on ait des amitiés comme celle-là. C'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est selon Dieu, que nous soyons liés entre nous. Il y a cette affection fraternelle que nous avons à avoir, cet amour fraternel, l'affection fraternelle qui nous lie tous les uns aux autres, tous membres de la famille de Dieu. On est appelé à s'aimer de cet amour que le Seigneur verse dans nos cœurs, qui n'est pas cet amour qui vient de nos propres corps, c'est celui que le Seigneur verse dans nos cœurs. Et puis je crois que Dieu peut aussi permettre qu'il y ait des liens particuliers qui se créent. On voit l'exemple de Paul avec ses compagnons, par exemple, il y a d'autres exemples dans la parole. Celui-ci est peut-être un des exemples les plus frappants, hein, de ces liens d'amitié qui sont permis, d'amitié entre des croyants, et qui sont très beaux, et qui sont à leur place, et qui ont du prix. Et je crois que quand le Seigneur peut permettre aussi qu'il y ait des amitiés comme celle-là, qui soient vraiment heureuses, qui soient bénies, qui nous fassent du bien, parce qu'on a cité ce verset hier, je crois, le fer s'aiguise par le fer. Hein, on peut l'appliquer parfois à des croyants qui sont qui ont cette solidité parce que l'un et l'autre connaissent le Seigneur, et bien deux croyants ensemble, ils vont se faire du bien, ils vont se faire du bien mutuellement par cette amitié chrétienne, par ces liens. On voit parfois des serviteurs qui servent le Seigneur ensemble et qui vont avoir aussi ces liens en servant ensemble qui sont beaux, qui sont bons à leur place. Et bien cette histoire de David et Jonathan est, on peut dire, en premier lieu, en leçon pratique, une histoire d'amitié profonde entre deux croyants, et on sent que c'était une amitié qui était selon Dieu, qui manifestait ce qu'il y avait de ce que Dieu avait placé dans leur cœur à l'un, à l'autre. Et quand on voit parfois les tensions, des difficultés qu'ils peuvent avoir entre des croyants, de jalousie, de critique, de tant de choses comme ça, lorsqu'on laisse notre chair naturelle, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est des modèles en tout. Si on laisse, on peut être des chrétiens charnels, hein, et si on laisse la chair agir en nous, dans nos relations les uns avec les autres, la chair se manifeste. Et bien dans les relations entre Jonathan et David, et en particulier dans ce début-là qui est montré là, mais ce sera une amitié qui va être jusqu'au bout, même s'il y aura de la faiblesse, on en parlera après, des difficultés, mais l'amitié restera là, indéfectible, profonde, jusqu'au bout. Et bien que, voilà, je crois que Dieu met ça devant nous comme étant quelque chose de beau, de bon, de désirable. Et on peut rechercher d'avoir des amis chrétiens les uns les autres, et de se faire du bien par ces amitiés qui sont selon Dieu.
Le début du chapitre 18 peut arrêter notre attention. Il arriva comme il achevait de parler. Qu'est-ce qu'il vient de parler ? David. David vient de dire avec beaucoup d'humilité, lui qui vient de vaincre Goliath, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe le Bethléemite. » Cette humilité du grand vainqueur prend le cœur de Jonathan en l'humilité du Fils de Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, peut toucher profondément nos cœurs. Avant, d'autres ont parlé. Avant, vous avez Saül qui dit à Abner, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» La réponse, Abner lui dit, mon âme est vivante au roi, je n'en sais rien. Vous savez ce que dira le Seigneur aux Juifs dans le chapitre 8, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Là, il y a une intention d'esprit. Saül, l'homme dans la chair, qui est-ce qu'il est le fils? À vrai dire, il est étonnant de voir que Saül n'a pas fait la relation entre son joueur de harpe, tel que nous le trouvons dans le chapitre, dans le chapitre 16 du premier livre de Samuel, et celui qui a vaincu Goliath. Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, Jésus, comme homme, en l'assimilant au grand bienfaiteur de ce monde. On dit que c'était un homme exceptionnel. On peut même l'aimer puisqu'il est dit que Saül l'aima. Il aima beaucoup David. Mais on ne veut pas d'un Christ sur la croix. Image de la victoire de David sur Goliath dans le chapitre 17. Et on ne veut pas, surtout l'homme dans la chair, être mis de côté. On peut encore accepter qu'il vous fait du bien, qu'il joue de la harpe, qu'il soit apaisé. On l'aime beaucoup quand c'est un homme. Mais quand il y a une concurrence entre la chair et l'esprit, c'est quelque chose d'insupportable pour la chair. David a frappé, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ah non, ah non, ah non. La chair n'est pas prête à jouer les seconds rôles. Tant qu'il joue de la harpe et que c'est un homme simplement, oui, ça va, on l'aime bien. L'apôtre Paul dit, j'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus et Jésus-Christ crucifié. On a dit que l'apôtre Paul était venu à Corinthe où il se piquait de bonne philosophie. L'apôtre Paul est venu avec un pendu. Et si Abner est obligé de dire « j'en sais rien », l'humilité avec laquelle David dit « je suis fils de ton serviteur », prend le cœur de Jonathan. Que cette humilité profonde dans laquelle le Seigneur est venu sur la terre puisse toucher nos cœurs. Il s'est tellement approché de nous. Il a pris notre condition d'homme. N'y a-t-il pas quelque chose pour toucher profondément nos cœurs?
Pourquoi il y a de la jalousie? Ça ne devrait même pas exister entre les chrétiens. La fin du chapitre 14, justement, y montrait que, au verset 47, « Et Saül prit la royauté sur Israël et il fit la guerre tout alentour contre tous ses ennemis, contre Moab, contre les fils d'Ammon, contre Édom, contre les rois de Tsoba et contre les Philistins. Et partout où il se tournait, il les châtiait où il était vainqueur. » Et alors, pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui a une victoire, dans ce cas contre le Philistin, le Goliath, pourquoi être jaloux? C'est un ennemi de moins. Il ne faut pas être jaloux de quelques victoires que le Seigneur accorde aux uns ou aux autres. Au contraire, il faut s'en réjouir. Parce que c'est encore une victoire du Seigneur Jésus qui est mise en avant. Une victoire du Seigneur Jésus qui est exaltée. Si le Seigneur accorde à un de ses serviteurs une victoire, bien sûr, la chair est prompte. Et rapidement, le serviteur pourrait venir à trébucher sur sa propre victoire et se gargariser de quelque chose que j'ai fait. Non, c'est le Seigneur qui fait. Et quand un serviteur comme David, il donne ses origines, ton serviteur est fils de Dieu, comme nous pouvons le dire chacun d'entre nous, j'espère en tout cas, quand on dit ses origines, cela provoque immédiatement une contre-offensive, mais de l'ennemi de nos âmes. Et il pourrait semer dans nos cœurs cette saleté, excusez-moi de le dire comme ça, mais cette saleté de semence que c'est la jalousie. On a l'antidote On sait comment il faut faire. On est tous nets. On devrait se laisser laver les pieds pour que cette graine-là, elle parte. Elle ne traîne pas racine dans nos cœurs. Alors, mettons-nous humblement au service du Seigneur. Et si le Seigneur accorde la victoire à l'un ou à l'autre, ou à tous l'un après l'autre, soyons heureux. C'est la victoire du Seigneur.
Alors, quel était le ressort commun qu'avaient à la fois David et Jonathan qui a fait que cette amitié a pu naître? Et exemple de cette jalousie dont on vient de parler, eh bien, c'est qu'ils avaient une connaissance de l'Éternel, ils avaient une relation avec l'Éternel, et aussi ils plaçaient l'intérêt du peuple devant le leur. Enfin, c'est deux choses devant eux qui font que leur propre personnalité s'est mise en retrait et qui ont pu, de cette façon-là, ils ont pu se lier et être en bénédiction pour le peuple.
L'expression « l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David ». Jonathan l'aima comme son âme. Une relation d'âme. C'est-à-dire, de l'intérieur. Dieu, il a agi dans l'intérieur de notre être. Notre âme a été changée pour servir l'Éternel et nous aimons ceux que Dieu, il a aimés aussi. Et cette relation entre frères de l'esprit, c'est tout à fait une autre relation que la relation de la chair. Je peux avoir une relation beaucoup plus intime avec mon frère par l'esprit, parce que nous avons un objet commun. C'est Dieu qui a mis cet amour dans notre cœur, cet amour avec lequel nous avons été aimés parce que nous aimons le Seigneur. Nous aimons celui qui nous a libérés de l'esclavage, celui qui s'est donné lui-même, qui a donné sa vie. Alors, Jonathan, il a vu que David, il était prêt pour donner sa vie, parce que j'ai contre ce géant, il n'y avait pas de chance. Mais et alors le vrai David, il a pu tuer ce géant, il lui a coupé la tête. Mais, et alors, est-ce que nous aimons pas ce que le Seigneur, il a aimé, qui s'est livré lui-même aussi pour mon frère, pour ma sœur? Alors, il y a cet amour qui doit nous entraîner et rien d'autre. Ce qui compte d'abord pour Jonathan, ce n'est pas tant la victoire remportée par David. Il avait vu dans la vallée d'Ela, il a vu l'attitude de David, il a vu élevé contre Goliath, il a vu qu'il a remporté la victoire, mais en fait son âme est attachée à David. C'est Jonathan et David. Et on l'a dit tout à l'heure, David, l'exemple aussi de type du Seigneur Jésus. Et l'âme de Jonathan est liée. Que notre âme aussi soit liée au Seigneur Jésus, à celui qui nous a tant aimés, que nous répondions à son amour aussi.
un morceau entier pour lui comme celui de Jonathan pour David. Saül, il aimait David dans un sens, on va le voir ensuite, parce qu'il jouait bien, voilà, mais il n'y avait pas d'attachement profond en fait. D'ailleurs, quand il dit à la fin du chapitre 17, de qui es-tu fils ? Alors, il le savait pourtant, parce que si on regarde un peu plus avant, en Samuel 16, on voit que David savait, n'est-ce pas ? Saül savait qui était David. Mais Samuel dit à Isaïe, envoie et fais-le amener, et puis on voit au fur et à mesure que Saül connaissait qui était ce jeune David, le fils d'Isaïe, quand il l'appelle pour jouer de la musique. Mais non, il avait oublié. En fait, David lui-même ne l'intéressait pas tant que ça. Il intéressait pour satisfaire ses convoitises plus que l'amour vrai pour David, il n'en avait pas. D'ailleurs, on verra plus loin, il voudra le tuer. À plusieurs reprises, il a voulu tuer David. Mais Jonathan, lui, s'est attaché à David. Que nous puissions nous attacher au Seigneur Jésus. Et puis, il y a cette expression au propos de l'amitié. Tout à l'heure, Rémi a parlé de l'amitié entre croyants. Je veux citer ce verset de Proverbe 17. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et un frère est né pour la détresse. Un autre verset que je ne retrouve pas, il dit « Il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Que nous puissions aussi cultiver ces amitiés-là dans le Seigneur. L'ami aime en tout temps, pas simplement une occasion ou une autre. Un frère est né pour la détresse, quelqu'un qui peut trouver un ami sûr sur qui on peut compter. Que nous puissions rechercher ces amitiés-là qui sont dans le Seigneur, qui sont pour lui, qui sont utiles, qui sont bénédictions. Et Jonathan, s'est attaché à David. Ça a duré dans le temps, on le voit à plusieurs reprises, comment il va même prévenir David plus loin de son père voulait le faire mourir. Quelle amitié profonde a lié ces deux personnes, que nous puissions nous aussi nous lier, être liés au Seigneur Jésus d'abord, celui qui nous a aimés le premier, que nous puissions l'aimer nous en retour et nous attacher à sa personne. À sa personne, d'abord à lui-même.
Proverbe
18-24, ok. Merci. Proverbe, donc, un frère trouve le verset. Proverbe 18, verset 24, il est le milieu du verset. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. Merci.
Il y a au moins quatre versets qui parlent de cet amour très fort entre Jonathan et David. Donc, on l'a vu ici au verset 1. L'âme de Jonathan se lia à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Au verset 3, il l'aimait comme son âme. Au chapitre 19, verset 2, or Jonathan était très affectionné à David. Et puis au chapitre 20, verset 17, et Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait comme il aimait son âme. On voit ce que c'est un amour très profond. Et ce qui a fait dire à des personnes qui ne sont pas des croyants, que c'était peut-être un amour homosexuel. Quelle infamie. Et permettez une toute petite parenthèse sur ce sujet de l'homosexualité, parce qu'on en parle de plus en plus. Cela devient une chose qu'on devrait considérer comme normale. Et il y a même des chrétiens qui se marient, entre guillemets, et qui sont homosexuels. J'ai entendu une fois le cas d'un pasteur protestant qui a épousé un curé catholique et le mariage, entre guillemets, était célébré par une pasteure. Quelle abomination! Et il faut se rappeler, et c'est peut-être un sujet pour les plus jeunes, combien l'homosexualité est une abomination pour Dieu. On le voit dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, au verset 13. Et si un homme couche avec un mâle, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront certainement mis à mort, leur sang est sur eux. Alors on va peut-être dire oui, c'est dans l'Ancien Testament. Lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes aussi, pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie mâle avec mâle, et recevant en eux-mêmes la due récompense. Verset 22, au milieu, ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement ceux qui les pratiquent, mais encore ceux qui trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. C'est donc un sujet qui est d'une grande importance. Et dans ce monde, de plus en plus, on veut louer cela, c'est quelque chose de bien. Non, c'est une abomination devant l'Éternel. Gardons-nous de ces choses-là. Et puis, comme jusqu'où va le monde en disant que voilà, David et Jonathan avaient une telle relation. Non, c'était, comme on l'a dit, une relation profonde. Et ce qui les unissait, on l'a dit, c'était quelque part leur amour pour l'Éternel. C'était deux combattants qui aimaient l'Éternel. C'est ça, combien c'est beau de voir cela. Que nous puissions aussi choisir parmi nos amis des personnes qui aiment le Seigneur et qui sont prêts à combattre pour le Seigneur.
Peut-être que les frères et sœurs un peu plus âgés sont un peu choqués qu'on aborde cette question-là. Moi, quand j'étais petit, on n'en parlait jamais. Et je crois pour ceux qui ont des enfants qui, petits, qui grandissent, qui vont effectivement au collège, au lycée, qui font des études supérieures, c'est quelque chose qui est maintenant effectivement extrêmement courant et qu'on ne peut pas ignorer. Je crois qu'il faut en parler, la parole en parle. Et je ne voudrais surtout pas donner le sentiment que je veux revenir sur ce qu'a dit Marco, parce que c'est ce qu'il a dit et la parole. C'est ce que dit la parole. Alors je ne risquerai pas de dire autre chose que l'appréciation que Dieu porte effectivement sur la pratique de l'homosexualité. Mais il me semble que lorsqu'on aborde ce sujet-là, il faut aussi donner ce sentiment, comme j'ai peur de mal m'exprimer en le disant, et dire que Dieu aime les personnes, quelles aient les tendances ou qu'elles pratiquent l'homosexualité, exactement comme il a aimé chacun de nous, du même amour, et qu'en tant que croyant, il y a une frange du christianisme identitaire qui se revendique de valeurs chrétiennes, qui trouve très, très, très bon, très chrétien, de mettre en avant une détestation des homosexuels, ce qu'ils appellent l'homophobie, le fait de détester les gens. Et les gens se revendiquent de valeurs chrétiennes, brandissent le christianisme pour détester des gens, en disant ce sont des pécheurs qui pratiquent l'homosexualité, on déteste, on ne supporte pas, qui cherchent à leur nuire, il y a même des homosexuels qui sont agressés par des gens qui après revendiquent ça très fiers en disant voilà, on a tapé sur des homosexuels, nous on est des hommes, on est etc. Et souvent avec cette idée de valeurs chrétiennes, enfin, sous-entendu, c'est les valeurs chrétiennes, c'est contre les homosexuels et quand on leur tape dessus, ben on a bien raison. C'est un péché qui est au moins aussi grave que celui dont on a parlé. Il ne faut surtout pas confondre ces choses-là. Oui, Dieu nous dit que l'homosexualité, je ne vais pas revenir sur ce que Marco nous a dit, est quelque chose qui est un péché grave à ses yeux. Et c'est vrai, on dit souvent que tous les péchés sont graves aux yeux de Dieu. Mais il faut reconnaître qu'effectivement, Dieu met un accent un peu particulier dans l'Épître aux Romains sur ce péché, même s'il ne faut pas penser que... on a tous des collègues de travail, des amis qui vivent qui ont une vie maritale hors mariage. La parole, très clairement, appelle ça de la fornication. Et on ne peut pas dire que Dieu cherche à minimiser ce péché-là. Et pourtant, on est habitué à côtoyer tous les jours dans notre travail des personnes qui vivent dans cette situation, ou d'adultère ou de fornication. La Bible dit que sinon, il faudrait qu'on sorte du monde, qu'on vive comme des ermites dans des cavernes, dans des monastères repliés, si on voulait avoir aucun contact. Donc je crois aussi, il me semble, j'espère que je ne vous choque pas en disant ça, mais qu'il ne faut pas fuir les contacts à tout prix avec des homosexuels. Si on en a dans notre entourage, c'est pas facile certainement, mais être amené en tout cas à rendre un témoignage de notre foi et à montrer quelque chose de l'amour du Seigneur, il ne faut pas fuir. C'est pas un comportement chrétien que d'avoir une forme de que ces gens nous repoussent, que nous on les repousse comme s'ils étaient des lépreux particulièrement dont il faut s'éloigner. Je crois que on a manifesté l'amour du Seigneur exactement de la même manière. Ça ne veut en aucun cas dire approuver ce qu'ils pratiquent, mais gardons-nous de tout sentiment d'homophobie, il faut appeler ce mot-là, et la loi dans notre pays condamne l'homophobie. Je crois qu'il faut dire que cette loi en tant que telle est juste. Nous n'avons pas à détester des personnes à cause de cette pratique. Ce qui ne veut absolument pas dire approuver et encore moins nous associer à cette pratique. Mais le Seigneur les aime de la même manière qu'il nous a aimés. On est appelé à les aimer nous aussi.
On peut dire Dieu est le péché, mais Dieu aime les pécheurs. Et c'est la même chose ici. Le mot Dieu est l'homosexualité. Mais il aime les homosexuels en désirant aussi qu'ils se convertissent.
Je voulais revenir sur les liens d'amour qu'il peut y avoir entre deux frères ou entre les serviteurs et ceux qui sont l'objet de ces soins. En lisant la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, pensez à ce passage au verset 7. Mais nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice chérit ses propres enfants. Ainsi, vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été tout disposés à vous communiquer non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies. Parce que vous nous étiez devenus fort chers. Donc on voit ce sentiment, ce lien, cet amour qu'il y a entre Paul et ceux à qui il communique l'évangile, mais aussi même sa propre vie. Je pensais aussi à un autre passage dans Galates, au chapitre 4, où on voit le lien toujours entre celui qui communique l'évangile au chapitre 4. Au verset 13. Et vous savez que dans l'infirmité de la chair, je vous ai évangélisé au commencement. Et vous n'avez point méprisé, ni rejeté avec dégoût ma tentation qui était en ma chair. mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Quel était donc votre bonheur? Car je vous rends témoignage que si cela eût été possible, arrachant vos propres yeux, vous me les eussiez donnés. Donc là, on voit encore ce lien fort qui est créé entre celui qui sert et ceux qui reçoivent de ce serviteur. Cet échange d'affinité, d'amour, d'affection. Et un autre passage pour finir, en acte 20, quand Paul dit aux anciens d'Éphèse qu'ils ne verront plus son visage, verset 37 du chapitre 20, et il au pluriel, versait tous beaucoup de larmes, et se jetant au cou de Paul, il le couvrait de baisers, étant surtout peiné de la parole qu'il avait dite, il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnait au navire. Donc on voit comment, là encore, l'affection est débordante entre les frères, et les chrétiens et l'apôtre Paul, et comment les choses se manifestent. Des fois, on retient nos affections entre les uns et les autres, mais là, on trouve, il se jette à son cou et le couvre de baisers. Quel amour entre des frères, des sœurs, qui est né donc de cette relation que nous avons tous avec le Seigneur Jésus. Et plus notre communion avec le Seigneur est grande, plus nos relations seront étroites. Je pense, vous savez, à une roue de vélo où les rayons convergent tous vers le centre. Plus les rayons s'approchent du centre, plus ils sont proches les uns des autres.
Dans des passages comme ça, l'application est plus importante que l'explication. L'application, c'est bien l'amour pour notre Seigneur. L'amour d'un croyant pour son Seigneur. Et là, on a vu beaucoup de contrastes entre Saül et Jonathan dans le chapitre 14. Ici, il y en a un aussi. Entre Saül, qui veut bien David comme un serviteur, qui soigne son égo, est là pour lui. Mais là, nous avons un Jonathan qui est prêt à être pour David, à se dépouiller de tout. Il n'arrive pas à moi de me glorifier, dit l'apôtre Paul aux Galates aussi dans le chapitre 6, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde m'est crucifié, moi au monde. Nous voudrions peut-être, nous aussi, d'un christianisme où le Seigneur soit un petit peu à notre service, mais dont nous restons le centre. Oui, moi, avec le Seigneur, mais moi. Jonathan nous donne un autre exemple. Il se dépouille de tout ce qui pourrait le faire paraître, lui, le fils du roi, sa robe, ses vêtements. Il se dépouille aussi de tout ce qui pourrait faire sa gloire dans son action, que ce soit son épée, que ce soit son arc, que ce soit sa ceinture qui nous parle de service, tout remis à David. Nous ne sommes pas, nous, le propos central de Dieu. Nous sommes merveilleusement aimés de notre Dieu et Père, c'est vrai. Mais ce n'est pas nous, le centre des pensées de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. C'est Christ, le centre des pensées de Dieu. Et nous, nous sommes périphériques. Et ça, l'enseignement que nous donne Jonathan ici, est d'une extrême importance. Est-ce que nous sommes prêts, ce que Saül n'était pas prêt à jouer les seconds rôles, n'était pas prêt à ça, 10 000 pour... Non, pas prêt à ça.
avoir commis l'Elohim, non. Mais est-ce que nous sommes prêts à disparaître, à être effacés, à être gommés pour que ce soit Christ? L'apôtre Paul dira, pour moi, vivre, c'est Christ. Quand-il plut au Seigneur de manifester sa vie en moi, début des Galates, quand-il plut à Dieu qui m'a mis... qui m'a appelé d'élevant de ma maître et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ. Pas quand vous sentez par rapport à ces pensées, c'est pas les miennes, c'est celles de la parole de Dieu. On se sent tout petit parce que nous ne sommes pas forcément prêts, même si nous ne pouvons pas nous mettre en compagnie totalement de Saül, qui est un incrédule, un homme religieux sur la vie. Est-ce que nous sommes prêts à être mis de côté? Est-ce que nous sommes prêts à ce que ce soit Christ qui est tout? Est-ce que nous sommes prêts à tout confier à Christ? Je sais, celui qui est derrière le micro, il ne fait pas le malin, vous savez, que la vie de Christ, que lui soit central, et que nous soyons pas seulement lui pour nous, mais surtout nous pour lui.
Mais on a rappelé que Jonathan se lie à l'âme de David. Que David était le vainqueur du Goliath. Notre Seigneur a été vainqueur sur la croix. Il est mort pour moi. Il est mort pour tout pécheur. Il a souffert pour moi. Il a souffert pour vous, pour chacun des pécheurs. Combien notre âme peut s'attacher au Seigneur qui a donné sa vie, s'est abaissé, nous l'avons rappelé ce matin, plus bas que nous n'étions, pour que nous ayons cette vie éternelle avec lui. Alors combien on peut se lier et il doit avoir la première place dans nos cœurs. Je le dis pour moi le premier. Il aima comme son âme. Difficile à dire que nous aimons le Seigneur comme notre âme. Un peu plus loin, il est dit, Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David. Ainsi que ses vêtements, il se dépouille. Laissons tout ce qui est de nous-mêmes, bien-aimés, de côté. Prenons ce qui vient de Christ, ce qui est à Christ, ce qui appartient à Christ. Dans cette description de ce dépouillement, il n'y a pas les chaussures. Les chaussures, ça nous parle de la marche. Et la marche, qui c'est qui nous la montre? Vers quelle marche devons-nous regarder? Sinon, vers celle de notre Seigneur lui-même. Comment lui a marché? Et regardant à lui, il nous donnera la force aussi de marcher comme lui, bien faiblement sans doute, mais avec lui.
Verset 4 est beau, on voit Jonathan qui se dépouille, comme notre frère vient de dire, il se dépouille de tout. Sa robe, ses vêtements, son épée, son arc, sa ceinture, et remets tout à David. C'était lui l'héritier présomptif. Il aurait pu dire, mais il va prendre ma place, David. C'était moi aussi, j'ai remporté la victoire. Moi aussi, Dieu m'a utilisé pour, on l'a vu, n'est-ce pas, à la fin du chapitre 14, Dieu a opéré, Jonathan a opéré avec Dieu, il a eu une grande délivrance, il était aimé du peuple. On aurait pu dire, c'est moi qui vais succéder à Saül. Mais non, son cœur a été touché profondément par David, parce que David était, parce qu'il avait fait, il sentait bien que c'était, que David était supérieur, que c'était lui, et on voit qu'il donne tout. Il ne garde rien pour lui. Que nous puissions nous attacher au Seigneur Jésus, à celui qui nous a tant aimés, et nous aussi nous dépouiller de nous-mêmes pour mettre tout à son service. Je voudrais citer ce passage de Romains 12, le premier verset. N'est-ce pas, nous avons aussi à nous-mêmes à nous mettre à la disposition du Seigneur. Romains 12, premier verset. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à présenter vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Voilà, nous pouvons aussi nous-mêmes nous mettre à la disposition du Seigneur Jésus, comme Jonathan l'a fait. Et on voit que Jonathan va poursuivre ensuite, de bien des manières, à plusieurs reprises, être pour David, être avec lui. Et nous puissions aussi être pour le Seigneur Jésus et tout lui remettre, tout lui donner. Il a des droits sur nos cœurs parce qu'il nous a aimés le premier. Nous puissions aussi nous attacher à lui comme Jonathan s'est attaché à David.
Par rapport à ce fait que la personne du Seigneur, comme David pour Jonathan, soit complètement centrale, je voudrais vous livrer la pensée de quelque chose que nous disait mon beau-père, et mon beau-père a été bien connu ici. Dans le Cantique des Cantiques, nous avons la bien-aimée qui dit dans le chapitre 2, verset 15, « Mon bien-aimé est à moi. Il est à moi. Et je suis à mon bien-aimé. Mais d'abord, il est à moi. » Et puis, la bien-aimée avance dans sa connaissance du bien-aimé. Et alors, au chapitre 6, elle dit, elle inverse les choses. Je suis à mon bien-aimé. Verset 3. Et mon bien-aimé est à moi. Cette fois, ce qui a pris de l'importance pour elle, c'est pas que son bien-aimé soit à elle, mais qu'elle est à son bien-aimé. Et puis, elle va encore avancer plus loin, la bien-aimée. Et quand on arrive au chapitre 7, verset 10, que dit-elle ? Je suis à mon bien-aimé. Et son désir se porte vers moi. Elle est cette fois complètement mise de côté. Elle ne dit plus « Mon bien-aimé est à moi, c'est fini. » Pour que lui ait toute la gloire. Et cela nous amène aussi sur la montagne de la Transfiguration. Sans doute, Pierre, Jacques et Jean, ils ont regardé à droite et à gauche en disant « Il est passé où, Élie ? Il est passé où, Moïse ?» Ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Que lui croisse, que nous nous diminuions, nous sommes souvent tellement exercés, nos petits exercices qui tournent autour de nous-mêmes, on est le centre de notre vie chrétienne. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse produire cela en nous, de nous décentrer. Notre égoïsme peut même s'introduire dans nos exercices de foi, même là. Bien sûr, dire que le Seigneur ne veut pas être avec nous, mais si nous pouvions nous élever à ce niveau pour que ce soit lui, que nous soyons complètement décentrés, même mis de côté,
pour que ce soit sa personne qui ait de l'importance. Pour Jonathan, il avait peut-être une belle robe de fils de roi. Il avait peut-être une épée exceptionnelle. Il avait peut-être des vêtements qui le faisaient voir. Attendez, je ne suis pas n'importe qui, je suis comme Jonathan, le fils du roi. Vous donnez un Christ. Je veux dire que d'une certaine manière, l'apôtre Paul a dit aussi tout ça. Des ordures, Philippiens 3, afin que je gagne Christ. L'ordure, tout ça, c'est toute la grandeur de fils du roi, tout ça, tout donné, terminé. Je donne toi, David, c'est plus moi. Prêt à disparaître. Prêt à disparaître pour que lui soit majeur et prioritaire dans notre vie.
Et pensez aussi à ce renoncement de Jonathan. On mesure peut-être pas très bien, mais je pense que symboliquement, devant tous ces hommes qui sont autour, devant son propre père, tous les chefs, tous les capitaines de l'armée qui sont autour, se dévêtir de sa robe de fils de roi, de son épée de fils de roi, sans doute celle avec laquelle il avait remporté cette si grande victoire, il est donné à David, c'était vraiment une forme de renoncement. Et plus tard, on voit, c'est pas explicite là, mais on le voit très clairement dans d'autres passages, que Jonathan a, sans doute à ce moment-là, accepté, compris, que c'est pas lui qui régnera. Il a cédé la place dans son cœur ce jour-là devant le vainqueur de Goliath. Il a dit, ce sera lui, ce ne sera pas moi. Ce n'est pas rien comme renoncement, sans doute, dans le cas de quelqu'un comme Jonathan. Et c'est le Seigneur dit, que, voilà, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce soi-même. Et c'est vraiment une belle image de cela. Et je voulais, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? On l'a dit plusieurs fois, mais il me semble qu'il faut insister tellement, c'est le grand motif, ce qui doit toucher nos cœurs, c'est l'amour qu'il a eu pour David. Et je veux lire ce passage, peut-être certains y ont déjà pensé, dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, 2 Corinthiens 5, 14. « Car l'amour de Christ nous étreint. » C'est une expression très forte. « L'amour de Christ nous étreint. » On a parlé de l'âme qui se lie à l'autre, à une autre âme. L'amour, quelque chose qui nous étreint, qui étreint nos cœurs, qui étreint nos âmes. L'amour de Christ nous étreint. Ce que nous avons jugé ceci, c'est que si un est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, ne vivent plus pour être fils de roi, ne vivent plus pour être le futur prince et héritier, etc. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Pour celui qui a remporté cette victoire, qui nous a délivrés. Voilà, être occupé du Sauveur, plus occupé du. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait faut qu'on soit plus occupé du Sauveur que du salut. Hein, parfois, c'est un peu ce que nous disait Benjamin. Et je pense aussi à cette expression, je ne sais pas à quel endroit, je ne sais pas le retrouver, mais je crois que c'est dans les Actes où il parlait de Barnabas qui encourage les croyants. Il les encourageait non pas à bien connaître toute la doctrine, à bien avoir assimilé tous les enseignements, même si ces choses étaient importantes. Mais il y avait une seule chose à retenir de ce que Barnabas disait, il les exhortait à être attachés au Seigneur de tout leur cœur. Attachés à la personne du Seigneur de tout leur cœur, c'est ça le message qu'il fallait garder du ministère de Barnabas, c'était ça, aimer le Seigneur de tout son cœur. Et on pourrait dire encore à ce moment-là, l'amour de Jonathan, c'est encore un moment facile. David est là, c'est le héros du jour, hein, c'est le grand vainqueur, etc. Donc c'est un moment, même si pour Jonathan c'est un grand renoncement pour lui, c'est le moment, où, le court moment, on peut dire, pendant lequel David a la faveur du peuple, a la faveur de tout le monde. Mais très vite, l'amour va être mis à l'épreuve. Que très vite, et c'est le chapitre 19 qu'on a lu aussi, il va se passer quelque chose, c'est la jalousie de Saül qui va être là. Et ils reviennent de la victoire, on n'a pas lu ce passage. Et David, en rentrant, alors on voit David déjà, au chapitre 13, il avait dit, quand il voyait un homme vaillant, il le prenait pour être avec lui. Benjamin nous l'a déjà dit, voilà la façon dont il agit lui, à la différence de David, Saül, il prend les hommes pour lui. Là, il a vu David, et on a dit au verset, je ne sais pas si on l'a souligné, mais Jonathan, il aime David de toute son âme. Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il lui interdit de retourner chez son père. Voilà la façon dont Saül agit. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Et puis donc, un peu plus tard, il rentre à Jérusalem. Et puis toutes les femmes sortent et chantent avec des tambourins, il y a des danses. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, Saül, il entend ces femmes qui chantent et qui disent, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et alors ça, sans doute Jonathan était heureux en entendant ça, ou glorifier la victoire de David. Mais Saül, ça lui a pas plu du tout, du tout, du tout. Il dit, comment ça? Il lui reste plus que la royauté. Il reste plus qu'est-ce qu'il devient de roi à ma place. Et Saül, à partir de ce moment-là, décide de la perte de David. Et au lieu d'être reconnaissant pour de cette victoire, il va être jaloux, cette espèce de poison de la jalousie qui va venir dans son cœur. Et qu'est-ce qu'on a à être en garde de ça, de la jalousie les uns envers les autres, même comme croyants, parce que si on la laisse se développer, on l'a dans nos cœurs, comme l'avait Saül, exactement de la même façon, c'est ce poison de la jalousie qui va venir. Et à partir de ce moment-là, l'amour de Jonathan, ça va être un amour qui va être mis à l'épreuve. Parce que ça ne sera plus aimer David que tout le monde aime, qui est à la cour, qui a une place enviée, etc. Ça va être aimer celui qui est proscrit, celui qui est rejeté, celui qu'on chasse, le fugitif, celui qui est mis à l'écart, dont on ne veut pas. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle aussi à nous aujourd'hui. Quelle place a le Seigneur Jésus dans ce monde? De manière générale, le Seigneur Jésus est celui qui a été rejeté. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. On ne veut pas de lui. Et l'amour pour le Seigneur, c'est aimer quelqu'un qui, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, est mis de côté, est rejeté. On n'en veut pas. Et ce premier exemple, puisqu'il y a plusieurs scènes qui nous parlent de cet amour de Jonathan pour David alors qu'il est rejeté, ce premier épisode, on l'a lu dans le chapitre 19, eh bien, donc, Saül, il parle à ses serviteurs et à Jonathan de faire mourir David. Et alors, à ce moment-là, eh bien, Jonathan a le cœur touché en entendant ça. Et alors, il dit à David, écoute, reste à l'écart pour l'instant, cache-toi, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Moi, je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père, je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est. Et je voulais juste souligner cette expression qui est très belle. Jonathan parla en bien de David. Jonathan parla en bien de David à Saül, son père. Il lui dit, etc. Et ce que va dire Jonathan à ce moment-là, il va lui rappeler, mais rappelle-toi, c'est celui qui nous a délivrés. C'est celui qui nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il rappelle? Il ne dit pas, oh, c'est quelqu'un de bien, il a des qualités, c'est un garçon honorable, il est d'une bonne famille. Il met le doigt, en parlant à Saül, sur ce que David a fait pour eux. Il a mis sa vie en ta main, il a frappé le Philistin, l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Voilà, il rappelle la délivrance, il rappelle de quelle manière ils ont été sauvés par David. Sauvé par l'action de David. Il met ça sur le cœur de Saül. Il parle en bien. Il n'a pas peur de parler en bien de David, le rejeté, le proscrit à son père. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui nous touche. De quelle manière est-ce que nous parlons en bien du Seigneur Jésus? Est-ce qu'il nous arrive d'hésiter, de ne pas le faire? Moi, je sais que ça m'est arrivé, je pense à beaucoup ici, de ne pas avoir le courage de parler en bien de notre Sauveur, de celui qui nous a délivrés. Jonathan, à ce moment-là, encore de sa vie, eh bien, il est un bel exemple de quelqu'un qui est attaché au Seigneur et qui a à cœur les intérêts de son ami et qui a à cœur ses intérêts, qui va parler en bien, qui va par tous les moyens chercher à préserver la vie de David, mais il va montrer son amour pour celui qui est rejeté dans un contexte très difficile, dans un contexte d'hostilité. On va voir qu'à un moment donné, son père va même chercher à le tuer d'un coup de lance parce qu'il a pris le parti de David. Ça montre jusqu'où ça pouvait aller de prendre le parti de David, mais il n'a pas eu peur de parler en bien, alors que le Seigneur nous donne d'avoir souvent des occasions et souvent le courage de parler en bien de celui qui a donné sa vie pour nous.
Cette animosité de Saül vis-à-vis de David fait juste remarquer un détail extrêmement intéressant. Quand il y a cette concurrence entre les 1000 et 10 000 dont Rémi vient de nous parler, il y a un détail qui est un peu bouleversant dans le verset 11, on ne l'a pas lu, mais verset 11. « Et Saül jeta la lance et dit, je frapperai David à la paroi. » Lisez tous la note. Je le clouerai avec ma lance à la paroi. La lance dans la main de Saül, c'est toujours, elle est fichée par terre dans d'autres passages, chapitre 22, je crois, c'est toujours la force de l'homme
la méchanceté de l'homme. Et ce terme cloué n'annonce-t-il pas mille ans, plus de mille ans à l'avance, celui qu'on allait clouer sur une croix? Alors, Rémi nous a présenté un aspect, la manière dont nous parlons du Seigneur Jésus. Mais à partir du chapitre 19, il y a un principe qui est là, c'est l'impossibilité de marier la chair et l'esprit. Jonathan va essayer de recoller les morceaux, renouer la relation. Ça semble marcher un peu au chapitre 19, un tout petit peu. Bon, ben, il ne va pas mourir. Mais d'une manière constante, on voit Saül dont la haine va se réveiller contre David. Que nous est-il dit dans les Galates, au chapitre 5, verset 17 ? La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Il n'y a pas de terrain d'entente entre la chair et l'esprit. Et c'est un principe, ça, fondamental. Je dirais que c'est comme un leitmotiv qu'on trouve dans toute la parole de Dieu. Ça a commencé où, cette affaire-là? Tout de suite après la chute. Lorsque l'Éternel dit « Je mettrai inimitié entre sa semence c'est quoi ? Semence du serpent, semence du diable, et la semence de la femme qui est Christ. » Et cette annonce prophétique a eu tout de suite son accomplissement en quoi ? Dans le chapitre suivant, vous avez un Abel. Il y en a un qui est de la semence du serpent, et si vous en doutez, c'est même pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Pourquoi le tua-t-il, nous dit la première épître de Jean ? Parce qu'il était du méchant. Donc il est bien de cette dynastie-là. Il est bien de la semence du serpent, il est du méchant. Pourquoi le tua-t-il ? Parce qu'il était du méchant. Parce qu'il est la semence du serpent, et Abel nous parle déjà en avance de celui qui, venant dans les champs, le domaine du monde, eh bien, le premier homme tuant le second. Et les choses se rejouent. Les choses se rejouent déjà dans Ismaël, Isaac, dans encore plus dans Ésaü, Jacob. Ésaü aussi a voulu tuer son frère Jacob. Et les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph. On trouve cela constamment, partout. Et quand nous avons Saül et David, nous avons encore l'histoire qui se rejoue. L'inimitié entre sa semence, celle du serpent, et la semence de la femme. Vous voyez, ce n'est pas la première prophétie, mais déjà là. Et nous avons la confirmation de ce grand principe de l'Écriture. Alors, on dira, oui, ben, c'est intéressant, c'est bien, mais ça ne nous est pas dit pour nous amuser. Parce que moi aussi, je suis, par nature, de cette race-là. Il y a un Saül en moi. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Christ. Et alors, c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire en clair dans ses épîtres, dans les Romains, dans les Galates. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. C'est pas quelque chose comme dans un stade, il joue au foot en bas, je suis dans les gradins et je fais rien. Non, j'y suis. Ma chair, je voudrais composer un peu moi, un peu le Seigneur. Jonathan s'y essayait. Un peu moi, un peu Saül, un peu David, non. Ces choses ne sont pas compatibles. N'essayons pas de les rendre compatibles dans notre vie, mais réalisons avec l'apôtre Paul le mourir de Jésus. Laissons cette nature, mon Saül dans la mort, cette nature en Adam qui a été crucifiée à la croix de Christ. Christ est mort pour moi, c'est une très, très grande vérité, mais je suis crucifié avec Christ, c'est une autre vérité dont je n'ai pas le droit de faire l'économie. Est-ce que je vis cette crucifixion de moi, du moi, de ma chair dans ma vie pratique? Tout dans le monde nous montre le contraire. Dans le monde, on a tout basé sur l'homme, dans la chair. Et Dieu a tout basé sur Christ. Nous sommes invités à vivre. Vous savez, qui est-ce qu'ici ne veut pas vivre en ressuscité? Il y a quelqu'un qui ne veut pas vivre en ressuscité ici? On veut tous vivre en ressuscité. Mais aucun de nous ne peut ressusciter s'il n'est pas d'abord mort. Portant toujours le mourir de Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans nos corps mortels. Ce sont des vérités qui sont fondamentales. Vous voulez être un chrétien vainqueur? Bien sûr, on peut vivre de réunions, on est content dans ces réunions, ça élève nos cœurs, non. Nous avons à vivre cela. L'apôtre Paul nous donne un secret, portant toujours partout le mourir de Jésus, que nous puissions porter le même jugement que Dieu sur l'homme dans la chair que nous portons. Ce n'est pas notre identité, c'est vrai, mais que nous portions ce jugement. Vous savez, votre premier point de communion avec Dieu, votre premier point de communion avec Dieu, vous avez réfléchi ce que c'est? C'est les gloires de Christ, non? Premier point de communion avec Dieu, c'est d'être d'accord avec lui sur ce que je suis. Que je suis comme homme dans la chair. Et c'est comme si Dieu me disait, mais si on est d'accord là-dessus, on va être d'accord sur bien d'autres choses et sur les gloires de Christ. Mais si je suis en rupture dans ma vie avec cela, c'est-à-dire si j'ai des illusions sur moi-même alors que Dieu n'en a aucune sur moi, il n'y a déjà pas de communion à ce niveau-là. Mais quand je porte ce jugement que Dieu a porté sur la chair, qu'il a frappé dans la chair de Christ, je suis d'accord avec lui dans un exercice profond, dans la mise de côté de moi-même comme celle de Jonathan, alors, en réalisant cette mort, je vais peut-être aussi réaliser cette vie de ressuscité à laquelle nous sommes tous appelés.
L'heure est bientôt là, la nuit aussi. Aussi, on propose peut-être de terminer.